Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vous verrez, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées.
Winter is coming.
On a une éolienne à peine connectée.
Notre maison brûle et nous regardons ailleurs.
Depuis le début de la guerre en Ukraine, les factures d'énergie explosent. Les ménages français qui se chauffent à l'électricité, par exemple, ont subi une hausse moyenne de 20 euros par mois. Sans parler des entreprises ou de ceux se chauffant autrement comme au gaz, notre monde est aussi, encore aujourd'hui, trop dépendant du pétrole et n'oublions pas le dérèglement climatique. Bref, il nous faut changer, réduire notre consommation énergétique semble inévitable. Dans cet épisode de Culture Numérique, nous commencerons donc par parler de la hausse des prix de l'énergie, de certains de ses impacts et de ses origines, l'occasion aussi de s'interroger sur les outils qui existent pour mieux consommer, que l'on soit une entreprise ou un particulier. Nous parlerons ensuite des politiques publiques. Et oui, sont-elles suffisantes pour atteindre les fameux objectifs de mix énergétique et surtout de neutralité carbone? Et enfin, nous terminerons avec une partie sur le mix énergétique lui-même et son avenir. Quelle énergie y inclure? Tout particulièrement en France, évidemment. Pour faire tout ça, je suis allé voir deux experts, Gilda Dolbo, cofondateur de Enoptea, une société qui vous aide à gérer votre énergie, ainsi que Corentin Civi, responsable développement et acquisition pour Baiva RE France. Vous écoutez un épisode de Culture Numérique sur l'avenir de l'énergie, un podcast de Siècle Digital. Bonne écoute. Alors, par où commencer? De quoi parle-t-on exactement quand il est question de l'avenir de l'énergie? Comme je vous l'ai dit en introduction, cet épisode sera en gros découpé en trois parties, et donc la première partie commence en quelque sorte par un état des lieux.
Winter is coming.
Oui, l'hiver est là, bien là, et certains le sentent un peu trop d'ailleurs. La faute, entre autres, à la hausse des coûts de l'énergie. Depuis le milieu de l'année 2021, l'énergie s'est considérablement renchérie. Entre le deuxième trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2022, le prix spot moyen du baril de Brent est passé de 69 euros à 112 euros, soit une hausse de 63%. Et le prix du gaz a fait de même avec plus de 290%. Les ménages qui se chauffent à l'électricité, eux, ont subi une hausse moyenne de 20 euros par mois. Le premier impact de cette flambée des prix, c'est la réduction du pouvoir d'achat des ménages, puis la précarisation de certains qui se retrouvent à ne plus pouvoir payer leur chauffage. Chacun, même les collectivités, doivent alors se mettre à la sobriété, ce qui n'est pas plus mal, par contre, pour la planète. Il faut aussi noter que la hausse des prix de l'énergie exerce un double effet sur l'inflation, l'un direct, l'autre indirect. De façon directe, d'abord, les produits énergétiques, c'est-à-dire le gaz, l'électricité ou encore les produits pétroliers, représentent un poste de dépenses de plus en plus important pour les ménages, avec 8,9% de leurs dépenses de consommation en France, selon l'INSEE. La hausse de ces prix pèse donc directement, comme je vous le disais, sur le pouvoir d'achat des ménages. Le renchérissement de l'énergie augmente également les coûts pour les entreprises, qui répercutent au moins en partie ces hausses sur leur propre prix de vente. Ces ventes peuvent être destinées aux ménages ou à d'autres entreprises, mais souvent, la hausse par effet de cascade finit toujours par se répercuter sur le portefeuille des ménages. Pour faire face et éviter les coupures d'énergie durant l'hiver, pour éviter les pénuries, il nous faut donc faire des efforts. Le gouvernement ne cesse de demander aux Français et aux entreprises de réduire leur consommation d'énergie, notamment par des petits gestes du quotidien. Il y a quelques semaines, il a aussi été rendu public que des coupures d'électricité par zone pourraient tout de même avoir lieu durant l'hiver. Mi-décembre, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, a affirmé, je le cite, « Je pense que nous sommes dans la bonne voie pour éviter des coupures d'électricité cet hiver ». Reste que c'est quand même possible, c'est pas écarté. Mais alors d'où vient cette hausse, cette situation plus globalement? Eh bien, les tensions sur les marchés mondiaux sont apparues dans le sillage de la reprise après la récession. Récession en partie due à l'épidémie de Covid-19, et tout ça a été en partie amplifié par la guerre en Ukraine à partir du début de l'année 2022. Bien sûr, il y a aussi le dérèglement climatique qui nous oblige à changer nos habitudes. Mais alors, pour bien comprendre tout ça, ses origines, je vous propose d'écouter Gilda Dolbo, le cofondateur d'Enoptea.
Alors, effectivement, en France, en tout cas, le coût de l'énergie, et même en Europe, est indexé sur la dernière unité produite, et c'est le gaz. Donc, vu que le gaz a beaucoup augmenté du fait de l'Ukraine et aussi du fait de la reprise en fait, économique post-Covid, donc couplé ces deux éléments-là, on a eu une explosion du marché. Il peut y avoir également le prix du baril, du Brent, qui rentre en compte. Et les pays de l'OPEP, on a vu un coût du baril exploser. Ça a aussi impacté les ménages comme les entreprises françaises. Donc aujourd'hui, c'est les trois gros facteurs qui font qu'effectivement, on a une hausse du coût de l'énergie. On a l'avantage là en France d'avoir en fait des stocks de gaz qui sont pleins pour cette année. Donc voilà, mais la hausse du coût de l'énergie aujourd'hui est principalement dû quand même à ces facteurs-là. Il y a un autre facteur qui est la maintenance des centrales nucléaires. Mmh. Aujourd'hui, on a à peu près 50 centrales nucléaires en France et on va dire un gros tiers est en maintenance. Et donc, une peur du marché de ne pas avoir d'assez d'électricité sur le marché pour pouvoir couvrir les besoins. Et donc, une augmentation du coût de l'énergie. Donc, on peut avoir des pics qui se créent à cause de ça. On a eu des énormes pics courant août, on est monté à 1 200 € par mégawattheure, donc quasi un x10 hein, par rapport à ce qui pouvait être, même x12 par rapport à ce qu'on pouvait avoir quelques mois auparavant. Et ce pic-là est retombé après, et ça c'est dû effectivement à de multiples facteurs géopolitiques sur la partie maintenance des centrales nucléaires ou encore la partie post-Covid, reprise économique.
Corentin Civy, responsable développement et acquisition chez BayVa RE France, a aussi son avis sur les origines de la situation énergétique actuelle ainsi que sur les enseignements qu'il faudrait en tirer.
Alors en fait, ça a commencé bien avant la guerre en Ukraine. Le premier signal et la première raison, c'est la déstabilisation du marché d'import-export en Europe avec le problème de corrosion sur nos centrales nucléaires et puis le grand carénage, donc tous les grands travaux qui ont été lancés, ce qui faisait qu'on avait à peu près la moitié de notre parc nucléaire qui a commencé à être progressivement arrêté depuis l'année 2021. Donc on a vu émerger à ce moment-là une inversion de ce qu'on appelle le merit order, mais sans rentrer dans des techniques, en gros, on s'est mis à manquer de quasiment un quart de notre production. Et donc on est passé du rang de premier exportateur mondial, on se dispute tous les ans avec l'Allemagne, d'électricité, au statut d'importateur, donc avec un gros trou sur les marchés européens. Donc ça a déséquilibré l'ensemble du marché et donc ça a fait monter les prix. Et arrivé par-dessus la cerise sur le gâteau, la guerre déclenchée par Vladimir Poutine, qui a conduit à ce que le gaz, qui était déjà cher, s'est mis à devenir extrêmement cher. Et comme on en avait un besoin énorme du fait de la perte de plus de 100 TWh nucléaire, donc ce qui est quasiment un quart de notre production, on s'est retrouvé à devoir acheter énormément de gaz et pas mal de nos voisins qui comptaient sur nous ont dû aussi du coup acheter du gaz. Donc on s'est tous battus pour le gaz et donc ça a entraîné tout ce pataquès qu'on a aujourd'hui.
Il faut donc se rendre à l'évidence, il nous faut moins consommer. Et qui dit réduire sa consommation dit mieux la connaître et mieux consommer. Et pour ça, eh bien, il faut des outils. Mais alors, quels outils existent-ils pour mieux consommer ? Il y a dans un premier temps les applications que vous connaissez sans doute pour les particuliers. Par exemple, si vous êtes chez Engie, vous avez accès à une application Engie qui vous permet de suivre votre consommation. Ce genre de support peut vous permettre de voir quelles sont les plus grosses sources de votre consommation dans votre foyer, par exemple. Certaines applications et certains sites internet donnent aussi des conseils à appliquer au quotidien, de petits gestes qui vont vous permettre de réaliser de grandes économies. Pour ce qui est des entreprises, il existe aussi des outils et des solutions pour mieux consommer. Gilda Dolbo est bien placée pour en parler, c'est là le cœur de l'activité de son entreprise Enoptea, aider les entreprises dans leur consommation d'énergie et les coûts que cela engendre. Je vous propose donc de l'écouter tout de suite.
Pouvoir accompagner les entreprises dans la renégociation de leurs contrats d'électricité ou de gaz. Nous aujourd'hui chez Enoptea, le courtage c'est plus un mode de rémunération. On a commencé Enoptea en étant vraiment des experts en achat d'énergie et on a dû s'adapter au marché par rapport en fait à la rémunération qui était plutôt demandée côté fournisseur plutôt que côté client. Et donc, le marché du courtage en énergie et l'activité de courtier en énergie, c'est un tout petit peu, on va dire, mis en difficulté. On peut déjà très facilement réaliser 10, 15, 20% de réduction de consommation d'énergie uniquement au travers de petites actions sans investissement lourd, au travers de l'analyse de la donnée énergétique. On collecte les données de vos compteurs d'énergie qui permettent d'avoir une vision toutes les 10 minutes des puissances atteintes de votre compteur et on va pouvoir détecter des dérives de consommation récurrentes qu'il y a au sein de vos bâtiments. Par exemple, de la clim, de la ventilation, du chauffage qui sont mal réglés, machines qui sont allumées beaucoup trop tôt, beaucoup trop tard par rapport en fait à un coût d'énergie, une consommation énergétique. Faire par exemple une action très simple d'installer des horloges pour réguler en fait quand est-ce que les machines sont allumées, quand est-ce qu'elles sont éteintes, et ben on peut réaliser déjà parfois 10 à 15% de réduction de consommation. Concrètement, nous on a accompagné un client qui avait 500 bâtiments en France. On a réalisé l'étude sur 120 bâtiments, et on lui a permis de réaliser 6 gigawattheures. Alors, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, hein, mais 6 gigawattheures de consommation. Et en termes financiers, avec les prix moyens qu'on avait en 2019, ça équivalait à peu près 700 000 euros d'économie.
Je terminerai cette première partie de l'épisode par une question. Est-ce que le marché ne devrait au final pas changer pour améliorer la situation? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'acteurs? Qu'il ne vaudrait pas mieux réguler un peu plus ce marché? J'ai posé cette question directement à Gilda Dolbeau.
Alors aujourd'hui, légiférer pour réguler un marché, je pense pas. Je pense que le marché se régule de lui-même du fait que aujourd'hui il y a une multiplicité d'acteurs. Et alors on a subi avec le décret tertiaire justement une centralisation en fait de l'offre proposée par différents acteurs, des acteurs qui pouvaient gérer le décret tertiaire qui étaient éditeurs logiciels comme Enoptea ou des personnes qui font des entreprises qui font de la construction et qui disaient qu'ils répondaient au décret tertiaire. Et donc pour ça, ça a brouillé le message en fait au niveau des entreprises pour justement qui fait quoi et par quelle bouche doit le prendre. Aujourd'hui, je pense qu'il y a encore cette multiplicité d'acteurs, mais petit à petit, le marché va se structurer pour justement qu'il y ait des alliances qui se fassent entre des éditeurs logiciels, des bureaux d'études et des personnes qui font de la construction. Il y a déjà des acteurs qui font un peu de tout ça, plus ou moins bien. Il y a des alliances qui peuvent se créer. Et puis, il y a forcément des entreprises qui vont prendre un peu un leadership et d'autres entreprises qui vont rester à leur niveau. Je pense que le marché va se structurer petit à petit pour qu'il y ait une offre beaucoup plus claire. Après, en fait, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que le marché de l'énergie a toujours existé avec cette multiplicité d'acteurs, mais qu'avec la hausse du coût de l'énergie, aujourd'hui, on arrive à un marché qui doit se structurer pour répondre concrètement à l'ensemble des acteurs.
Oui, se structurer et donc quelque part se simplifier.
On espère. oui, l'idée, c'est de se simplifier ou en tout cas de rendre plus simple l'offre avec une offre pertinente et concrète pour la réduction des consommations d'énergie.
Mais comment parler d'énergie et de mix énergétique sans parler des politiques gouvernementales françaises comme européennes? Et nous allons le voir, pour sortir de cette situation et faire en sorte qu'elle ne se reproduise plus aussi plus tard, mais aussi améliorer l'impact que notre utilisation de l'énergie et notre consommation de l'énergie a sur le climat, plusieurs politiques, plusieurs plans sont lancés, et une tendance se dégage, celle du mix énergétique. Mais avant d'en parler un peu plus précisément de ce mix énergétique, comment parler de ça et d'énergie sans parler des politiques gouvernementales françaises comme européennes? Que font ces dirigeants face à la situation actuelle, mais surtout quels sont leurs objectifs énergétiques et comment comptent-ils y parvenir? La situation actuelle les obligeant à accélérer? Commençons par la France tout d'abord, la France qui a son propre plan. Introduite par la loi de transition énergétique pour la croissance verte, je parle bien sûr de la stratégie nationale bas carbone. Pour faire court, c'est la feuille de route du pays pour lutter contre le changement climatique. Elle a été adoptée en 2015, puis révisée en 2019. Au final, les objectifs français rejoignent les objectifs européens, explicités à travers un Green Deal, le pacte vert de l'Union européenne. Le but ici, c'est notamment d'atteindre la neutralité carbone en 2050, avec des émissions réduites de 55% en 2030 par rapport à 1990. La gestion de l'énergie, l'avenir de l'énergie, c'est aussi, je l'ai dit et répété, de la sobriété. Et la sobriété, eh bien, ça passe aussi par une consommation plus efficace, efficiente, notamment du point de vue des bâtiments. C'est donc dans cette optique qu'un plan de sobriété énergétique a aussi été élaboré par le gouvernement français. Mais est-il vraiment utile, ce plan ?
Alors, je pense que au tout début, le plan de sobriété, ou en tout cas... Alors, le plan de sobriété, c'est une très bonne chose parce que ça va inciter en fait les entreprises, comme les particuliers, mais quand même plus les entreprises, à faire des réels efforts en quick win pour réduire de 10 à 20% la réduction de consommation. Donc ça, c'est très bien et notamment, ça vient aider, j'ai envie de dire, les potentielles pénuries d'électricité qu'on pourrait avoir en France cette année. Et ça inscrit... En tout cas, ça met un premier pas dans la transition énergétique des entreprises et donc inciter potentiellement à continuer les actions et pas uniquement quick win. Se dire, OK, comment je vais vraiment inscrire mon parc immobilier, mon parc industriel dans une transition énergétique beaucoup plus long terme et pas avoir uniquement cette vision court-termiste.
En France, il y a aussi le décret tertiaire, aussi appelé dispositif éco-énergie tertiaire, qui a été mis en place en juillet 2019. Il impose aux bâtiments du secteur tertiaire ou ayant une activité tertiaire de réaliser 40% d'économies d'énergie d'ici 2030, 50% en 2040 et d'atteindre 60% en 2050. Et comme ça concerne directement son activité, j'ai demandé à Gilda Dolbo si ces objectifs-là tout particulièrement étaient accessibles, réalistes.
Pour revenir sur le décret tertiaire, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que 25% de la consommation finale énergie tertiaire, 45% de la consommation d'énergie en France est liée au tertiaire et au résidentiel. D'accord ? Ne pas s'attaquer dans un objectif de transition carbone et de réduction des consommations énergétiques au secteur tertiaire, c'était pas une bonne chose. Donc, enfin, on va dire, ce décret tertiaire a été voté. Après, les objectifs qui sont donnés de moins 40%, moins 50 et moins 60%, oui, ils sont faisables, mais avec une vraie volonté politique comme des entreprises d'y arriver. Bien évidemment, après ces 10 ou 15%, il va falloir aller plus loin. Et aujourd'hui, aller plus loin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait savoir comment son bâtiment consomme au travers d'un audit énergétique et de planifier, prioriser et financer les actions de performance énergétique qui permettront d'aller justement au moins 30, moins 40, moins 50 et moins 60%. Très concrètement, pour les entreprises, on va dire qu'il y a moins 10, moins 15% actions quick win. Entre moins 15 et moins 50, c'est des actions d'audit et des actions de performance énergétique qui vont permettre de changer le bâtiment, les équipements, mettre de la consommation d'énergie renouvelable. Et pour nous, les 10% supplémentaires vont être dans le pilotage du bâtiment. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, OK, il y a une alerte de dérive de consommation. Eh bien, je vais pouvoir la corriger tout de suite et donc éviter les surconsommations. D'accord. Et donc d'aller plus loin en fait que uniquement la partie en fait bâtie ou équipement. On va aller piloter le bâtiment pour justement atteindre les objectifs du décret tertiaire.
Le futur de l'énergie, notre consommation énergétique en France comme partout sur la planète, va aussi passer par les énergies renouvelables. Et quand on voit la situation et le niveau de déploiement des énergies renouvelables en France actuellement, on peut rapidement se demander si le gouvernement en a fait assez, s'il n'y a pas eu de sa part un manque d'anticipation. Pour Corentin Civi, malgré tout, non, on ne peut pas dire qu'il y a eu un manque d'anticipation de la part du gouvernement. Le problème serait plutôt à chercher du côté d'une chose que vous connaissez bien, Françaises et Français, du côté du fameux millefeuille administratif.
Juste avant ça, revenir sur l'anticipation, c'est vrai que ce qui est un peu dommage dans tout ça, c'est qu'on avait... dans les tuyaux administratifs, notamment français, énormément de capacités renouvelables qui ont été accumulées en blocage, à la fois par les administrations sous la directive un petit peu du président de la République de dire que voilà, les renouvelables, il n'y a pas besoin d'aller vite dessus, ce qui fait qu'on est le seul pays en Europe à ne pas avoir atteint ces objectifs en renouvelables, que ce soit en chaleur, en électricité ou en transport, et du coup, on va payer 500 millions d'euros d'amende pour ça. Mais ce qui est fou, c'est que toute la capacité qui est bloquée dans les tuyaux administratifs, d'une part par les opposants, mais aussi par les administrations sous l'impulsion de l'État qui a ralenti, c'était largement de quoi faire plus que tout le gaz qu'on brûle aujourd'hui pour notre électricité en France. C'est quand même assez dommage parce qu'on a la double peine, on n'a pas atteint nos objectifs. Alors certains diront oui, mais c'est pas grave, on a déjà l'électricité la plus décarbonée du monde, sauf qu'en fait, il manque là un quart de notre production nucléaire, et du coup, c'est du gaz qu'on met à la place. Donc on aurait pu éviter de brûler tout ce gaz-là, on aurait pu sortir beaucoup plus vite de la dépendance à la Russie, faute d'anticipation.
Donc un problème à vous écouter d'anticipation de la part du gouvernement ?
Non, pas vraiment, puisque c'est Le grand carénage, il était évidemment prévu. Ce qui n'était pas prévu, c'est que EDF soit incapable de tenir ses plannings et ses délais, et surtout le problème de corrosion qu'on a eu sur 12 réacteurs, qui étaient des choses qui remontent à la construction du parc et qui n'ont pas été du tout anticipées, même si certains avaient une petite idée du risque de ce type de risque-là. Donc il y aurait pu avoir un peu d'anticipation là-dessus, mais bon, c'était quand même très aléatoire. Et donc c'est ça qui voilà, c'est un peu c'était pas vraiment du tout prévu, et donc on s'est retrouvé avec cette énorme perte de production et à devoir la combler hyper rapidement.
Et ces politiques françaises et européennes, est-ce qu'elles ne sont pas au fond un peu idylliques quand on voit où nous en sommes par rapport à la situation actuelle? Les objectifs comme la neutralité carbone en 2050, même s'ils sont souhaitables, sont-ils atteignables?
Alors oui et non, si on n'y arrive pas les conséquences vont être terribles, donc c'est pas vraiment, enfin, pour moi je dirais pas que c'est illique, mais on a juste pas le choix en fait. On n'a pas le choix, et oui, c'est atteignable. C'est ça qui est le plus intéressant dans l'histoire, c'est que c'est complètement atteignable. Maintenant, oui, ça nécessite de lever un certain nombre de freins, ça nécessite aussi de trouver le récit qui fasse que les gens en aient envie. Donc c'est de trouver aussi la façon de développer les projets d'une manière qui profite à tous les territoires qui les accueillent et qui soit pas vécu comme quelque chose d'imposé d'en haut. Donc c'est vrai que ça a le mérite de pousser les États à avancer. Mmh. Là, il y a un gros paquet qui doit arriver sur 2023, et ce que la loi d'accélération va pas réussir à faire, parce que ça va être une énième loi de ralentissement, on peut espérer que l'échelon européen arrive à renverser un peu la vapeur et à faire revenir un petit peu à la raison pour qu'on puisse tout simplement ne pas se taper des années d'inflation à je ne sais pas combien de pourcents, une facture énergétique française qui dépasse les 100 milliards et des ménages qui ne peuvent pas se payer leur chauffage. C'est complètement aberrant, alors qu'on a les solutions sous la main. On a toutes les capacités dans notre portefeuille de nos administrations. On peut les déployer en 2-3 ans et on a largement de quoi produire bien plus que tout ce qu'on brûle comme gaz chaque année pour faire des systèmes.
Reste que pour atteindre ses objectifs, la France mise notamment sur une chose qui tient en deux mots dont j'ai un peu parlé avant, mix énergétique. Il existe plusieurs énergies et sources d'énergie. Mais alors, sur quelle énergie on va se reposer plus tard? Quelle est ou quelles sont les énergies qui vont permettre une production suffisante à des prix abordables? Comme me l'a expliqué Gilda Dolbo, il n'y aura pas une énergie qui se dégagera, non, il faudra plutôt se reposer sur un mix énergétique. Mais alors, quelle source d'énergie mettre dans ce mix?
Alors aujourd'hui, je pense que les énergies renouvelables au global sont des énergies auxquelles il va falloir intensifier en tout cas le développement, que ça soit au niveau de l'éolien, au niveau des panneaux photovoltaïques, avec le solaire. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'incitations en fait pour justement pouvoir installer des centrales photovoltaïques, que ça soit en fait au niveau d'énormes parcs, au niveau plus, on va dire, micro, au niveau des entreprises, pour pouvoir autoconsommer et notamment aussi se dérisquer en fonction des marchés de l'énergie. Parce que si on arrive à autoconsommer, on va dire, 50% de son énergie, on n'aura pas à aller chercher 50% en fait sur le marché. Donc ça permet aussi en fait de réduire son coût. Aujourd'hui, en fait, je pense que si on arrive à produire de l'énergie la plus décarbonée possible, c'est sûr que pour la planète et pour les futurs qui arrivent, ça sera le mieux possible. Je pense que l'électricité est ce qui se dégage, en tout cas, comme énergie pour les années qui arrivent, et au travers de l'énergie nucléaire, mais également, en fait, de plus en plus envers les énergies renouvelables. Donc, c'est sûr que le gaz n'a pas, pour produire de l'électricité, n'a pas un avenir, en tout cas, qui est plébiscité aujourd'hui.
La crise climatique et l'épuisement des ressources excluent aussi, a priori, certaines énergies d'office, notamment donc les énergies fossiles, comme le pétrole et le charbon, on peut aussi y mettre le gaz. Des énergies, vous le savez, très très productrices de CO2, donc très polluantes. Reste alors les énergies renouvelables et le nucléaire pour faire ce mix énergétique. Le déploiement des énergies renouvelables en France est bien en retard au vu de la situation et comparé aux voisins européens. Pourtant, notamment en ce qui concerne les éoliennes offshore, la France dispose d'un espace largement suffisant. La situation actuelle ayant sans doute participé à ça, Emmanuel Macron a décidé d'accélérer ces derniers mois sur cette question. Un projet de loi sur les énergies renouvelables est justement en discussion à l'Assemblée nationale. Et pour citer vipublic.fr, Face à la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine et au dérèglement climatique, le projet de loi a pour but de développer plus vite les énergies renouvelables. On voit bien que ça découle essentiellement cette prise de conscience et cette volonté d'accélérer de la situation actuelle et donc de la guerre en Ukraine aussi. Le mix énergétique français, selon la vision du gouvernement actuel, sera donc constitué en bonne partie d'énergies renouvelables. Mais un point tout particulier crispait notamment la plupart des oppositions au gouvernement sur cette loi pour le développement des énergies renouvelables en France. Un point qui aurait, selon certaines oppositions, obligé la population et les maires à accepter l'implantation d'éoliennes. J'ai donc posé la question à Corentin Civi si c'était là la bonne méthode, la seule solution pour avancer sur le développement des énergies renouvelables.
Alors sur le papier, oui, les intentions sont très bonnes, c'est de réduire les délais qui sont absolument incompréhensibles. C'est-à-dire qu'il faut quelques mois pour construire un parc éolien, mais il faut 6-7 ans pour obtenir l'autorisation. Alors que on met 10 personnes autour d'une table et en 2 semaines, le dossier il est étudié. Hein, et après, on fait 3 semaines de concertation avec l'enquête publique et c'est plié. Mais bon, voilà, on met 6-7 ans pour le faire. Alors là, il y a une loi d'accélération qui est en cours d'étude à l'Assemblée. Malheureusement, comme on a l'ensemble des Républicains et l'ensemble du Rassemblement National qui sont archi opposés aux énergies renouvelables, qui pensent qu'on peut construire des centrales nucléaires du jour au lendemain en 3 jours, donc du coup, on n'a pas besoin de renouvelables. Et c'est pas grave si ça coûte beaucoup plus cher. Donc du coup, ils font un blocage complet, ce qui fait que là, la loi d'accélération, elle est en train de se transformer, comme c'est quasiment systématiquement le cas depuis 15 ans, en nouvelle loi de ralentissement, puisque ils ont jugé bon de rajouter de la concertation à la concertation, sachant qu'il y a déjà un niveau infini de concertation, de rajouter de la planification avec des nouveaux documents à produire qui vont mettre des années à être produits, comme si on n'avait pas déjà eu 70 plans départementaux, 50 plans régionaux, 35 plans intercommunaux.
Mais dans cette loi, sur les énergies renouvelables, il y a quand même un article en particulier qui crispe les députés, de tous bords d'ailleurs, la gauche aussi. C'est l'article 4 qui prévoit une reconnaissance de raison impérative d'intérêt public majeur pour les projets renouvelables. Bon, en gros, ça va limiter en fait la possibilité de recours juridique. Est-ce que c'est un mal nécessaire pour vous pour booster le développement des énergies renouvelables ?
De toute façon, cet article-là, il a sauté. Et je vous invite à lire sur le blog de Arnaud Gossement, qui est l'ancien président de France Nature Environnement, et qui a écrit une belle explication sur le principe de cette raison d'intérêt public majeur, qui est très intéressante, qui montre à quel point c'est pas du tout l'angle qui a été choisi de montrer et qui a crispé, évidemment. C'est pas du tout un affaiblissement de la biodiversité, au contraire. C'est plutôt reconnaître l'état existant du fait du très faible impact des renouvelables et qu'on puisse accélérer sur certaines de nos procédures. Il y a quand même quelque chose qui est assez incroyable dans ce pays, c'est que pour construire une autoroute, pour construire une voie ferrée, pour construire une centrale nucléaire, pour construire une centrale à gaz, il y a cette raison d'intérêt public majeur, ce qui leur permet d'avancer sur un certain nombre de choses. Là, c'était même pas ce statut qui était proposé pour les renouvelables, c'était juste de sortir du flou juridique qui existait entre doit faire une demande de dérogation destruction d'espèces protégées ou pas. Et donc, c'était de sortir ce cadre-là, parce que aujourd'hui, certaines administrations demandent systématiquement ce type de dérogation, même quand il s'agit d'un potentiel destruction d'habitat qui potentiellement pourrait réduire l'habitat d'une espèce protégée. Donc là, dans ce cas-là, même plus possible de compenser, il fallait faire ce demande de dossier, ce qui leur permettait systématiquement de refuser les projets. Là, c'était de dire, vous allez devoir faire systématiquement ce genre de dossier, mais on va pouvoir vous l'accorder si vous respectez bien toute la séquence, éviter, réduire, compenser, etc.
Vous verrez. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées.
Effectivement, en France, on n'a pas de pétrole, ou plutôt très peu, mais on a des idées, et l'une de ces idées, c'est ou ça a été le nucléaire. On vient de le voir, la situation actuelle nous oblige à changer notre consommation d'énergie, à plus de sobriété, mais il va surtout falloir élaborer un nouveau mix énergétique qui apparaît comme la seule solution pour faire face à la situation actuelle. Un mix qui exclura d'office les énergies fossiles comme le pétrole, le gaz ou le charbon. Il y aura donc une bonne partie d'énergie renouvelable et donc du nucléaire. En tout cas, c'est la direction que prend la France. L'Hexagone est souvent vu comme le pays du nucléaire. À l'échelle mondiale, 10% de l'électricité provient des centrales nucléaires. Mais alors, la France est-elle vraiment la championne du nucléaire pour autant ? En termes de nombre, le numéro 1, c'est en fait les États-Unis, avec 55 centrales pour 93 réacteurs. Mais ça ne correspond qu'à 20% seulement de la production d'électricité du pays. Donc s'agissant seulement de la part représentée par l'énergie nucléaire dans la production d'énergie, et notamment d'électricité, la France est en effet numéro 1, loin devant, avec ses 18 centrales et leurs 56 réacteurs qui couvrent 71% des besoins en électricité. Mais ces derniers mois, notamment avec la campagne présidentielle, d'âpres débats ont opposé les partisans du nucléaire aux opposants au nucléaire. Le gouvernement a-t-il raison de miser autant sur cette technologie, ce type de production ? Ici, nous nous contenterons de dire ses avantages et ses inconvénients. Commençons par ses avantages. Déjà, le coût du combustible nécessaire au fonctionnement d'une centrale nucléaire représente seulement 20% du coût de l'énergie produite. Ça, plus d'autres facteurs, font que le coût de la production d'énergie avec une centrale nucléaire est moins élevé que pour beaucoup d'autres énergies. C'est pour ça qu'en France, l'énergie était pendant longtemps bien moins chère que chez nos voisins. Ensuite, le nucléaire ne produit pas de CO2, mais uniquement de la vapeur d'eau, c'est donc moins polluant. Les ressources en uranium sont aussi pour le moment encore abondantes. Voilà donc les principaux avantages. Mais alors, le nucléaire est-il pour autant la solution pour les années qui arrivent ?
Il y a un vrai souci colossal qui représente sans doute 90% du sujet, qui est la gestion par EDF. L'État a une part de responsabilité sur Fessenheim, okay, mais par contre, l'État a toujours, sans faille, les 6-7 derniers premiers ministres qu'on a, ont toujours été pro-nucléaire, ont toujours défendu la filière nucléaire. Même s'il y a eu la fermeture de Fessenheim, il y a toujours eu le projet de relancer des nouveaux réacteurs, il y a eu le projet de prolonger nos réacteurs nucléaires, on investit des dizaines de milliards d'euros là-dessus. En R&D, quand on investit 9 euros sur le nucléaire, on en investit 1 sur les renouvelables. Il y a toujours eu un soutien massif sans faille de l'État. Bon, c'est, voilà. Après, il y a un vrai problème avec l'opérateur. C'est qu'aujourd'hui, on a un parc qui est dans une situation assez catastrophique. Alors, sur la partie déchets et la partie dangerosité, c'est des choses qui sont, au moins sur la partie dangerosité, qui sont quand même relativement maîtrisées en France. On peut avoir confiance dans l'autorité de sûreté nucléaire. On a là aussi, on fait un premier centre de stockage qui est censé durer une centaine d'années et qui coûte au final 3, 4, 5 fois le prix qui était prévu au départ. Donc ça, c'est quand même un vrai problème de fond dans la filière nucléaire, c'est qu'ils sont incapables d'avoir un budget et de le tenir. Enfin, il y a un vrai problème de confiance vis-à-vis de l'industrie nucléaire, parce que soit elle ment, soit elle est incapable de tenir ce budget. Donc dans les deux cas, il y a un problème. Donc très clairement, ça interroge. Alors quand on voit que de l'autre côté, on a des renouvelables dont les coûts n'ont cessé de baisser, dont les technologies n'ont cessé de s'améliorer. Et quand on voit tous les grands organismes qui travaillent là-dessus, qui étudient avec des centaines d'experts sur le sujet et qui disent que, ben voilà, clairement, le mix du futur, c'est autour de 70% d'éolien et de solaire, autour de 10-15% d'hydraulique, et un résiduel avec les autres énergies renouvelables, et ensuite, sans doute, autour de 10% avec le nucléaire. Mais aujourd'hui, si on regarde ce qui est en train de se passer dans le monde, on a un peu de entités de référence qui peuvent servir à voir quelles sont les énergies qui sont en train de s'imposer. On a d'un côté l'Agence internationale de l'énergie. Là, aujourd'hui, ils considèrent qu'entre 2040 et 2050, on aura à peu près 90% d'énergie renouvelable dans le mix si tous les États suivent l'accord de Paris. Et parmi elles, il y en a deux qui s'imposent extrêmement majoritairement, qui devraient couvrir 70% du mix mondial, c'est l'éolien et le solaire. C'est clairement les deux technologies qui sont en train de s'imposer massivement. L'Agence internationale de l'énergie aussi, qui donne un petit peu les tendances qui sont en train d'émerger avec les lois d'accélération des différents pays, que ce soit aux États-Unis avec le grand plan Biden, le Inflation Reduction Act, que ce soit en Chine ou en Inde ou aussi en Europe, où là il y a une accélération qui est très forte. Très clairement, on va à toute vitesse vers un mix avec énormément d'éolien et de solaire.
Concernant les inconvénients maintenant, les déchets radioactifs tout d'abord sont nocifs pour l'environnement ainsi que pour la population. Le radium, atome radioactif, est présent principalement dans les déchets radioactifs et la radioactivité de ces déchets est réduite de manière très très lente. En gros, il faut près de 16 siècles pour voir disparaître les noyaux radioactifs des déchets nucléaires. Ensuite, la construction, les mesures de sécurité et la déconstruction d'une centrale sont très très chères. Sans oublier qu'une centrale prend au moins 10 ans pour être construite et les retards, on le voit bien en France, peuvent arriver très très vite. Tout ça pour une durée de vie théorique, généralement autour des 40 ans. Enfin, un accident nucléaire est toujours possible, même si les normes de sécurité sont très élevées, comme nous l'ont montré les multiples accidents autour du monde. Donc pour beaucoup, difficile de faire un mix énergétique sans nucléaire, surtout en France, dans le futur. Pour d'autres, au contraire, les énergies renouvelables domineront très largement. Mais alors justement, j'aimerais qu'on revienne maintenant un petit peu sur ces termes de mix énergétique. Ça fait plusieurs fois que j'en parle, mais on ne l'a jamais défini. Je pense donc qu'un petit point définition s'impose. Hein. C'est quoi le mix énergétique ? Eh bien, le mix énergétique, ça représente tout simplement la répartition des différentes sources d'énergie primaire, d'énergie fossile et d'énergie renouvelable ou encore d'énergie nucléaire qui sont utilisées pour répondre aux besoins énergétiques d'une zone géographique précise. et donc ces énergies sont utilisées pour produire de l'électricité, de la chaleur, du froid pour l'industrie ou pour les particuliers, sans oublier des carburants pour les transports. Voilà, maintenant qu'on est tous au point sur la définition, place au constat et à une question. Le mix énergétique français, où va-t-on ? Vers quoi se dirige-t-on ? On a déjà eu quelques éléments de réponse avant. Sachez tout d'abord qu'à l'échelle mondiale, les énergies fossiles dominent à 80% le mix énergétique. Mais vous vous en doutez, le mix énergétique est différent selon les régions ou les pays et varie en fonction de la disponibilité des ressources exploitables, des besoins énergétiques aussi, ou encore et surtout des choix politiques. Voilà pourquoi le bouquet énergétique varie d'un pays à l'autre. Du coup, en France, le mix énergétique est principalement composé de nucléaire, à 41,1%, et du pétrole pour 35,5%. À titre de comparaison, en Chine, c'est le charbon qui est le premier poste de consommation, avec 64%. En France, ces termes, mix énergétique, sont revenus sans cesse dès lors qu'il était question d'environnement et d'énergie durant la campagne présidentielle. Un peu réducteur, mais bon. Le candidat désormais président, Emmanuel Macron, ne s'est jamais caché que tel était son objectif, créer un mix énergétique français pour être le plus indépendant possible, aussi dans un souci de souveraineté donc, en s'appuyant majoritairement sur le nucléaire. Mais alors, à quoi ressemble le mix énergétique français aujourd'hui ? Est-il toujours principalement composé de nucléaire ? Le bouquet énergétique actuel de la France, selon les dernières données du gouvernement, se compose à 40% de nucléaire, 28% de pétrole, 16% de gaz naturel, 14% d'énergie renouvelable et 2% de charbon. Toujours selon le gouvernement, en 2021, le nucléaire représentait 75% de la production d'énergie primaire. On le voit, le nucléaire domine depuis des années. Mais si le nucléaire est si bon marché et si abondant dans le mix énergétique français, pourquoi les prix de l'énergie ont explosé malgré ça dans l'Hexagone ? Alors bien sûr, il y a tout ce que nous avons vu avant, avec la guerre, etc. Mais il y a aussi le problème du nombre de centrales en fonctionnement. Sur 56 réacteurs nucléaires en France, fin octobre, début novembre, seuls 26 fonctionnaient. Début décembre, c'était 38. Et EDF promet qu'ils seront 46 à fonctionner au 1er janvier 2023. 46 donc sur 56. Alors forcément, cette situation, ça pousse la France à devoir s'appuyer sur d'autres sources d'énergie pour produire suffisamment, dont des énergies fossiles, étant donné que le déploiement des énergies renouvelables est en retard, des énergies polluantes aussi, et plus chères. Alors bon, je vous l'ai dit plusieurs fois, je n'ai pas de boule de cristal, difficile donc de prédire quelles seront les énergies du futur, mais je terminerai cet épisode en parlant d'une source d'énergie en particulier, une source d'énergie qui n'est pas encore au point, mais dont les promesses semblent idylliques, une source d'énergie dont on a d'ailleurs parlé dans notre autre podcast, notre émission quotidienne, Signe Faible, il s'agit bien sûr de la fusion nucléaire.
Après, il y a des, si on veut voir un tout petit peu plus loin, il y a les technologies de fusion qui permettraient en fait d'avoir une énergie infinie.
Qui ne sont pas encore au point.
Qui ne sont pas encore au point. On ne sait pas dans combien de temps. On espère que ça va arriver. Voilà, c'est, si cela sort, bah, en tout cas, on aura beaucoup moins de besoin, j'ai envie de dire, d'aller déployer des énergies, des technologies d'énergie renouvelable qui vont potentiellement demander en fait, notamment par exemple pour les batteries, du lithium et donc d'avoir des puiser en fait dans des ressources naturelles pour justement faire de l'énergie décarbonée.
Alors déjà, c'est quoi la fusion nucléaire ? Pour bien comprendre, il faut distinguer fusion et fission. La fission, c'est ce qui est actuellement utilisé dans nos centrales nucléaires pour produire de l'énergie. Pour la faire simple et courte, on casse de gros noyaux pour en faire des petits et créer une réaction en chaîne. La fusion, c'est différent. C'est assembler des petits noyaux pour en faire un plus gros. Alors vous vous demandez maintenant peut-être quelle est la différence entre les deux, outre le processus. Eh bien en fait, la fusion présente de nombreux avantages par rapport à la fission. Elle ne comporte aucun risque d'accident nucléaire et produit moins de déchets radioactifs. Pas mal, hein ? De nombreux experts du monde entier se penchent donc sur la fusion nucléaire depuis des années, tout simplement parce que pour beaucoup, cette technologie permettrait de fournir une énergie propre, abondante, réglant ainsi quasiment tous les problèmes liés à l'énergie. Le 5 décembre, une équipe du Lawrence Livermore National Laboratory aux États-Unis a créé la première réaction de fusion connue avec un gain d'énergie net, ce qui veut dire en gros qu'elle a produit plus d'énergie qu'elle n'en a consommé, et ça, c'est une première. En France, il y a aussi un site de recherche et d'élaboration de structures de fusion nucléaire. Ce site se nomme l'ITER. Bon, il a pris plusieurs années de retard, mais en théorie, il devrait lui aussi permettre un gain d'énergie net, et sa mise en marche est donc pour l'instant programmée pour 2030. Et si c'était ça, l'énergie du futur ?
Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Future. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser une note. Sachez aussi que tous les épisodes de Culture Numérique ainsi que tous les podcasts de Siècle Digital sont à écouter sur notre site siècledigital.fr et sur les plateformes de streaming. À bientôt.